Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale fait le point sur le conflit syrien avec Paolo Sergio Pinheiro, président de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Syrie. L'année 2016 s'est achevée avec l'adoption le 31 décembre d'une résolution du Conseil de sécurité entérinant le cessez-le-feu négocié quelques jours plus tôt par la Russie et la Turquie. Si nul ne sait encore quel en sera l'impact sur l'évolution du conflit, ce début d'année est néanmoins l'occasion de revenir sur une guerre qui ne cesse de mobiliser l'attention de la communauté internationale. Auteur de plus d'une dizaine de rapports sur la guerre en Syrie, Paolo Sergio Pinheiro suit ce conflit depuis ses débuts. Dans un entretien accordé à ONU Info, il dresse tout d'abord un bilan des faits qui ont le plus marqué le conflit syrien en 2016.
Si je regarde l'année de 2016, je crois que comme pendant les autres années, on a perdu plusieurs possibilités de finir avec cette guerre. Si vous vous rappelez, l'année est bien commencée avec justement une résolution de l'ONU en définissant les étapes vers la paix. Et il y a eu beaucoup d'initiatives par mon collègue Staffan de Mistura, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général. Il a rencontré, je crois, toutes les parties présentes dans cette guerre, ce qui est quelque chose de très positif. Et si vous vous rappelez aussi, vers octobre, les États-Unis et la Fédération russe étaient en train de mettre en place un centre de coordination des opérations aériennes en Syrie. Lamentablement, la veille de cette mise en œuvre, il y a eu une attaque par la force aérienne américaine qui a bombardé quelques positions syriennes pour la première fois dans 6 ans. Dans les jours suivants, il y a eu le fameux attaque à 28 camions avec de l'aide humanitaire. Donc, je crois que c'est un mélange de faits positifs et de faits très négatifs, mais je crois que le dénominateur commun, c'est les souffrances qui ont affecté la population civile. C'est-à-dire, les deux côtés n'ont montré aucun respect pour l'exigence, l'impératif de la protection de la population civile. Donc, dans le 6e année de la guerre, c'est l'approfondissement de cette fragilité des populations civiles. Les vagues de réfugiés ont continué, cette fois vers l'Europe. Et aussi, la militarisation des parties dans la guerre s'est approfondie parce que on n'a pas respecté des objets protégés comme sont les écoles et les hôpitaux, les ambulatoires. Les groupes rebelles, plusieurs fois, se sont réfugiés dans cet objet protégé, transformant des écoles en des buts militaires légitimes. Donc, ce qui a aggravé énormément cette guerre. La dernière chose que je dirais, c'est que la vision qu'on a des conflits, c'est une vision déformée. Parce que il n'y a pas, pour de bonnes raisons, il n'y a pas de journalistes de l'Occident chez les territoires contrôlés par le groupe rebelle. Si on prend le cas d'Aleppo, il faut toujours considérer que ce sont des groupes armés alliés à un groupe terroriste qui est reconnu par l'ONU, c'est-à-dire l'ancien groupe qui était articulé avec Al-Qaïda. Ils ont un nouveau nom, mais les liens continuent le même, le Jabhat Fateh al-Sham. Et les groupes associés, ce sont des groupes rebelles, très cruels, il n'y a pas de modérés. C'est-à-dire, malheureusement, l'Occident a continué à insister sur cette notion de groupes modérés, ça n'existe pas. Les groupes modérés, où ils sont morts, où ils sont réfugiés, où ils sont dans les prisons, et on ne sait pas de leur destin. Mais bien sûr qu'il y a des groupes non militarisés, des associations de droits de l'homme, des groupes civils qui essayent d'apporter une vision sur les conflits.
Donc juste pour clarifier, c'est-à-dire que le conflit a évolué de telle manière à ce que maintenant, c'est plus une opposition entre le gouvernement syrien et des groupes dits terroristes ou affiliés à des groupes terroristes?
Oui, c'est ça. C'est ça qui est très caché dans la discussion globale qu'on fait. On oublie, il y a quelques journalistes qui soulignent ces faits, mais ils sont très peu, ils ne sont pas très, très nombreux. Il faut toujours souligner que le groupe armé rebelle qui était actif dans Aleppo Est, c'était des groupes associés à un groupe terroriste reconnu par l'ONU, qui attaquait aussi, pas avec le même moyen que le gouvernement syrien, avec l'appui de la Fédération russe, mais ils ont aussi attaqué la population civile à Aleppo Ouest.
Donc justement, par rapport à la ville d'Alep, est-ce que la situation, enfin, ou la bataille à Alep, est-ce qu'on peut dire que ça marque un point tournant dans le conflit en Syrie, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour s'avancer?
Vous savez, cette guerre est pleine de points tournants. Je crois que pour la population civile, il n'y a aucun point tournant positif. L'évacuation de Aleppo Est était un désastre, malgré les efforts que les différentes agences de l'ONU ont fait. Il y a eu de résistance, par exemple, des groupes rebelles qui empêchaient la population civile de sortir de Aleppo Est. Il y a aussi l'approfondissement du siège de Aleppo Est par les gouvernements syriens. Donc, ce sont des ruines. La ville a été réduite à des ruines. Et toujours, on ne sait pas exactement le chiffre exact de la population qui continue dans Aleppo Est. Vous savez que les médias indépendants ne peuvent pas entrer aussi. Et donc, tous les rapports qu'on aille, ce sont ou des agences de l'ONU, lorsqu'elles sont capables d'apporter de l'aide humanitaire, ou par des organisations de la société civile syrienne à l'extérieur. Donc, tout est très approximatif. Alors, il faut aussi avoir l'illusion que le fait que ces groupes rebelles ont été battus, en effet, à Aleppo, ça ne veut pas dire qu'ils sont battus pour toujours, parce que la paix en Syrie, à cause de la multiplicité des groupes armés et de le mouvement kaléidoscopique, si je puisse dire cela, des alliances, la guerre sera une chose très difficile à terminer.
Si on regarde 2017, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté Alep pour se rendre à Idlib. Est-ce que vous anticipez que cette ville jouera un rôle important dans les prochaines étapes de l'évolution du conflit en Syrie?
Oui, comme il y a une présence importante de groupes rebelles, ce n'est pas difficile à prévoir que la lutte continuera à Idlib. Je ne sais pas à quel moment. Mais c'est très difficile de faire des prévisions parce qu'un élément très important, le fait qu'il y aura une autre administration à Washington avec des visions complètement différentes de l'administration Obama, je crois que c'est important d'espérer quels seront les premiers pas de la nouvelle administration vis-à-vis la Syrie, parce qu'il y aura aussi une autre vision à l'ONU, aux Nations Unies, et donc je crois que c'est un élément décisif et sur lequel je crois qu'il faut attendre. À la fin janvier, la situation sera un peu plus claire.
Ya 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 hef. Ya 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 hef. Ya hef, ya hef. Ya hef.
Pendant l'année 2016, de nombreuses critiques ont également été adressées au Conseil de sécurité pour ce que certains qualifiaient de son inaction face au conflit en Syrie. Est-ce que vous pourriez revenir ou remettre en contexte ou réexpliquer pourquoi le Conseil n'a pas été en mesure d'adopter plusieurs des résolutions qui avaient été mises aux voix pour essayer d'imposer un cessez-le-feu à Alep notamment?
D'abord, il faut reconnaître que le Conseil de sécurité a approuvé, a voté une quinzaine de résolutions sur la feuille de route vers la paix. C'était très bien. Il y a eu même des résolutions qui employaient le même langage que notre commission en termes de l'accountability, de la mise en responsabilité de coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et je crois que j'ai fait 5 ou 6 briefings au Conseil de sécurité et moi et mes collègues commissaires ont dit très clairement, ont critiqué l'impuissance du Conseil de sécurité, qui est fondée essentiellement parce que la configuration du Conseil comme elle est aujourd'hui, c'est un anachronisme, parce qu'il ne correspond pas au rapport de force mondial dans la conjoncture présente. Donc, les décisions vis-à-vis la guerre en Syrie et à Alepo sont dépendantes de la rupture profonde entre les trois membres occidentaux du Conseil, la Fédération russe et la Chine. C'est cela qui a empêché la mise en œuvre concrète de plusieurs résolutions et principalement l'impuissance totale vis-à-vis la possibilité de référer le cas de la Syrie au tribunal pénal international. Et il y a le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'innocents dans ces guerres. C'est-à-dire que les deux camps du Conseil de sécurité, si on peut parler comme cela, ils sont engagés dans la guerre. Et cela, on a plusieurs fois invité ces parties à prendre conscience que les deux parties de deux champs du Conseil ont des responsabilités par la radicalisation dans la guerre, par la non-responsabilisation, excusez-moi de ces mots, peut-être, de responsable des crimes de guerre. Le fondement de cela, c'est l'engagement de deux champs avec les acteurs concrets dans la guerre, dans les territoires, dans les théâtres d'opérations en Syrie. Donc, c'est impossible d'espérer une décision angélique simplement fondée par des principes dans la direction de la paix. Et cela, ce n'est pas simplement par les deux champs au Conseil de sécurité, mais il y a une vingtaine d'États membres qui sont divisés et qui appuient une ou autre partie dans la guerre. Donc, la responsabilité n'est pas simplement du Conseil de sécurité, mais c'est la responsabilité des puissances régionales et de la puissance internationale. C'est-à-dire parce que c'est une guerre que se joue, je dirais, dans trois tableaux d'échecs. Le premier, c'est l'intérieur de la Syrie elle-même. La guerre a commencé comme une rébellion genre printemps arabe, non, ou genre rébellion contre la dictature en Amérique latine. Et après, c'est militarisé et immédiatement, ces 20 États membres, inclus les États membres permanents au Conseil de sécurité, ont s'engagé avec un côté ou l'autre de la guerre. C'est-à-dire il y a une contamination régionale de la guerre et finalement, il y a une contamination international de la guerre. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un conflit international, mais on parle, la Commission en parle, d'un conflit extrêmement internationalisé, ce qui rend très difficile la mise en œuvre de la paix. الشمس ما عطلعت سما كل غيوم ريحة البارود وصلت للنجوم حرام.
Le conflit en Syrie est bien évidemment sanglant. Un bilan fait état de 250 000 morts, au moins. Mais l'ONU avait également annoncé ne pas pouvoir être en mesure de comptabiliser davantage, faute de pouvoir confirmer le nombre de morts. A-t-on à l'heure actuelle une meilleure idée du bilan humanitaire de ce conflit ?
Non, c'est-à-dire, ce que la Commission dit sans aucun doute, c'est que la majorité de pertes de vie humaine dans les conflits sont à l'intérieur de la population civile. Bien sûr que des combattants meurent aussi, mais on ne sait pas. On ne sait pas combien de femmes, on ne sait pas combien d'hommes, combien d'enfants et combien de combattants, effectivement, ont été morts. De la même manière, je ne peux pas vous dire quel est le chiffre de disparus forcés. Quel est le chiffre des gens qui continuent, malgré plusieurs amnesties que le gouvernement a fait, qui continuent dans les prisons formelles ou improvisées à l'intérieur de la Syrie. Il y a aussi les prisons des groupes rebelles extrémistes, parce qu'il y a aussi des prisonniers par les groupes armés. À un certain moment, on aura peut-être des chiffres plus précis, mais aujourd'hui, l'indéfinition continue 6 années après le début de cette guerre, continue sans précision.
Et c'est avec Paolo Sergio Pinheiro que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.